Donc je remercie M. Blanchet pour sa présentation qui permet de rentrer un peu plus dans la graphique. On a croisé l'efficacité des pays, donc les scores moyennes, avec la distribution des scores à l'intérieur du pays. Alors, j'avais, pour cette présentation-là, choisi quelques pays, parce qu'on ne peut pas présenter 65 pays sur une graphique, et puis certains pays qui, dans leur organisation du système, peuvent être intéressants à creuser en regard de leur efficacité et équité. Donc, le bar bleu, ce n'est pas les gens de Québec, c'est l'efficacité. Donc, le score moyen de l'OCDE est de 496. Donc, on peut imaginer que les pays qui se trouvent au-dessus de la barre de 500 peuvent être considérés comme les plus efficaces. Et ceux qui sont en dessous de cette barre sont tendance à être moins efficaces ou plus inefficaces. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que les barres, il n'y a pas un gros, visuellement, il n'y a pas non plus de pays qui se distinguent beaucoup. Il y a la Finlande qui, avec 536, qui dépasse largement la barre de 500. La même chose que si j'avais mis le Canada, ce serait la même chose, il serait voisin de la Finlande. Et l'Italie, son barre, qui a une moyenne de 486, qui se trouve en décan. Pour les autres pays, on est voisin autour de 500. Donc, il n'y a pas non plus, déjà visuellement, une manière de, c'est certains pays, d'expliquer beaucoup de fluctuations en termes d'efficacité. Ces pays ont des différentes structures, mais les écarts ne sont pas très grands. Il y a certains pays qui se démarquent, soit vers le haut, soit vers le bas, mais il y a un bon peloton de milieu, comme autour de France, qui, finalement, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ensuite, au niveau d'efficacité, on a plusieurs manières de regarder la distribution. On peut avoir ce qu'on appelle l'écart type, donc les écarts par rapport à la moyenne, la variance. Ou ici, ce que j'ai pris aussi dans le rapport, c'est l'écart qui existe en nombre de points entre les élèves qui ont les scores les 25% les plus faibles et les 75% plus forts. Donc on a des écarts qui vont entre 116 pour la Finlande jusqu'à 143 pour la Belgique. Donc on a déjà au niveau d'équité plus de différence entre les pays. J'aurais pu trouver la même chose si j'avais comparé le top 10 des pays et les top 4 ceux qui avaient un niveau inférieur. Donc cette distinction des pays, cette équité est assez constante, quelle que soit la mesure d'équité qu'on utilise, ou le pourcentage d'élèves qui ont des niveaux 1 ou 2 par rapport à 4 et 5. Donc c'est quelque chose d'assez constant. Ce qu'on voit ici, j'ai classé les pays de manière croissant au niveau de la inéquité. Donc la Finlande est le pays ici le plus équitable et la Belgique le moins équitable. Alors, ce qu'on voit, c'est que donc, la Finlande, justement, se distingue à la fois sur les deux vertus, qu'il arrive à avoir l'efficacité d'un système et un système équitable. Et l'autre côté, on a le cas de la France-Belgique, qui a une tendance à avoir des systèmes équitables, mais néanmoins des systèmes aussi plutôt efficaces. Donc, c'est de savoir aussi ce qu'on va voir par la suite. Est-ce que les pays doivent choisir entre leur efficacité et leur équité? Est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent de beurre? Ou qu'est-ce qui peut faire qu'un système soit plus efficace? Qu'est-ce qui peut faire qu'un système soit plus équitable? Et est-ce que les deux peuvent se joindre? Mais aussi, quels sont les éléments qui tirent soit vers l'efficacité, soit vers l'équité? Alors, la raison que j'ai choisi les pays européens, c'est, bon, je viens de l'Europe aussi, mais notre, et puis j'ai vécu dans certains de ces pays, mais aussi la situation, c'est qu'il existe un groupe de chercheurs européens qui sont intéressés sur les facteurs qui pourraient expliquer l'efficacité des pays. Donc c'est un réseau d'économistes européens, et notamment un des chercheurs les plus connus dans le domaine, c'est un Allemand qui s'appelle Lugar Wussmann, qui est très prolifique, a fait beaucoup de productions sur ces questions. Et parmi les écrits, on a regardé en tant qu'économiste, si on met le chapeau d'économiste, on va dire, est-ce que c'est une question d'argent qui va jouer sur l'efficacité? Est-ce que les pays les plus efficaces sont les pays les plus efficients? Ou est-ce que c'est les pays qui dépensent plus d'argent? Alors, par rapport aux écrits des économistes, finalement, ce n'est pas nécessairement l'argent qui joue, mais plutôt, dans ces écrits-là, la question d'organisation de système et les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs institutionnels. Alors, en tant que point de vue économique, ou d'économiste, on va essayer de voir dans quelle mesure la imputabilité du système, c'est-à-dire le système doit rendre des comptes, a un effet positif sur les résultats mesurés par PISA. Donc, est-ce que, sans se figurer, est-ce qu'il y a un certain bâton, est-ce que finalement on va demander de rendre des comptes à le système éducatif, donc aussi d'avoir un système avec des examens centralisés, donc aussi que les écoles ne peuvent pas donner les notes qu'elles veulent aux élèves, qu'il y a une certaine pression sur les enseignants, un certain mécanisme de contrôle. Les travaux des économistes montrent que ce sont ces pays qui ont ces examens centralisés, ces examens externes, qui ont les scores moyens les plus élevés. Alors, même on trouve aussi dans ces écrits que dans certains pays, il y a une pratique de récompenser par des primes des enseignants les plus performants, donc la carotte. Donc, d'une certaine manière, que dans certains pays, on a un système de encourager des bonnes performances des élèves dans des écoles, et il semblerait, selon ces écrits, que c'est un effet positif mesuré par PISA sur les résultats des élèves à ces tests. Aussi, au terme économique, quand on parle ce matin, c'est la question de la décentralisation et l'autonomie. Les systèmes éducatifs qui possèdent plus d'autonomie au niveau des écoles sont des pays qui paraissent les plus efficaces, notamment l'autonomie des écoles dans le recrutement du personnel et l'achat du matériel et l'allocation des ressources à l'intérieur des écoles. Les pays qui connaissent l'autonomie des enseignants, à la fois au niveau des méthodes d'enseignement, et une moindre influence des syndicats sur le curriculum apparaissent des pays les plus efficaces. Aussi, un troisième élément qui est souvent mis en avant, c'est que la compétition publique-privée est bonne pour l'efficacité. C'est finalement mettre en concurrence des établissements privés et publics font une certaine émulation, et les écrits des économistes montrent que souvent les systèmes éducatifs les plus performants ont des systèmes où cohabitent le système public et privé ou des pays où il y a une forte proportion d'écoles privées. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est que déjà cet aspect-là peut favoriser l'efficacité, donc tirer vers l'eau les résultats des élèves, mais aussi c'est pas sans conséquence sur l'équité, dans le sens que tous les élèves ne vont pas dans les écoles privées. Il y a aussi un lien entre les écoles privées et puis l'origine sociale. Donc on va voir aussi que parfois les écoles privées peuvent jouer à la fois positivement sur l'efficacité, mais aussi de manière négative sur l'équité. Donc, pour regarder l'équité, donc de manière plutôt des sociologues, cette fois-ci, on change de casquette disciplinaire. Donc, les sociologues se sont intéressés à quels pourraient être les facteurs. Et il y avait une étude belge par Nico Hirt qui a regardé la question de liberté de choix parental des écoles. Et pour définir cette liberté de choix, il a pris en trois critères, c'est la densité de l'offre scolaire, donc le Pays-Bas, la Belgique, Norvège et Danemark, il y a beaucoup d'écoles potentielles pour des parents. Donc ça veut dire qu'avoir une concurrence entre écoles, il faut bien qu'on n'a pas à faire 500 km pour aller à la prochaine école, qu'il y a des écoles de proximité. Donc le cas de Belgique ou de Pays-Bas, les écoles sont proches, donc les parents peuvent choisir dans une carte scolaire. Aussi, par rapport à la carte scolaire, c'est que dans la Belgique, l'Irlande et les Pays-Bas, la régulation de l'affectation des élèves est plus faible, donc les parents ont plus de choix de dire, finalement, je vais aller scolariser mon enfant dans telle école ou telle école, sans nécessairement tricher comme en France pour le cas de son adresse pour être proche de l'école de son choix. Et également, le troisième élément, c'est la proportion de secteur privé dans le système. Donc, de nouveau, Pays-Bas et le Belgique ont une forte présence des écoles privées. Donc, selon cet indicateur qui a été créé par le chercheur belge, le Pays-Bas et le Belgique sont les pays où la liberté de choix est la plus forte en Europe, et le Portugal est un pays où la liberté de choix est quasiment inexistante. Alors, du coup, après, on peut faire le lien. Est-ce qu'il y a un lien entre cet degré de liberté de choix et les iniquités des résultats, notamment en fonction de l'origine sociale? Alors, donc, il semble que les pays qui ont plus de liberté de choix sont les pays les plus équitables. Donc il y a une certaine corrélation statistique plutôt élevée. Mais ce que certains autres chercheurs soulèvent, c'est que ce n'est pas seulement la présence des écoles privées qui crée l'iniquité. Donc le cas, par exemple, du Québec ou de l'Ontario ou Colombie-Britannique, c'est aussi comment et réguler le système, l'affectation des élèves, la compétition réelle ou non. Par exemple, au Québec, à Montréal, il y a beaucoup d'écoles privées, une forte proportion des élèves qui sont scolarisés dans les écoles privées, un tiers, me semble. Alors qu'au niveau du Québec, cette portion est moins élevée parce que dans certaines régions, il n'y en a pas. Donc c'est vrai qu'aussi, peut-être, ça peut expliquer d'une certaine manière, une certaine équité aussi du système québécois ou canadien, dans le sens que peut-être à Montréal, est peut-être plus inéquitable qu'en région. Donc c'est des choses aussi qu'on pourrait creuser davantage. Une deuxième hypothèse, une certaine série de travail comparatif a été menée par une chercheuse française qui s'appelle Nathalie Mons, qui avait dressé une typologie des systèmes en fonction de la différenciation des parcours à l'entrée du secondaire. Donc il y a quatre modèles. Donc le modèle, ce qu'elle appelle le modèle de séparation. Donc une séparation précoce qui existe en Allemagne et notamment dans les pays germaniques, Autriche, Suisse et la Belgique et les Pays-Bas, où à l'entrée du secondaire, les élèves sont mis dans des filières. Donc il y a la filière royale, académique, par exemple, en Allemagne, c'est la filière du gymnasium qui amène vers l'université, puis il y a des filières techniques et professionnelles, mais une fois qu'on est rendu sur les rails, on ne peut pas changer de train, donc c'est très difficile, dans le sens qu'il y a une prédétermination de la suite scolarité en fonction à l'âge de 11-12 ans. Donc c'est une fois qu'on est rendu sur le technique, il est plus difficile de revenir sur le général. Donc ça, c'est une caractéristique propre de ces pays-là. Et même dans des pays comme l'Allemagne, il y a certaines filières où il y a une forte proportion des élèves défavorisés, puis même issus d'immigration comme des Turcs qui suivent certaines formations. Il y a le modèle d'éducation à la carte, donc ce qu'on appelle plutôt en anglais le comprehensive school, donc avec des classes de niveau, comme au Québec, on peut avoir des cours enrichis, des options, mais le tronc commun existe. Donc c'est le cas des pays notamment anglo-saxons, de Commonwealth. Il y a le modèle plutôt latine-méditerranéenne, qui est un modèle d'intégration uniforme, donc un tronc commun. Donc, comme en France, il y a le collège unique, donc les élèves suivent les mêmes programmes, donc avec quelques possibilités d'options, mais généralement les élèves sont dans le même filière. Et le modèle plutôt scandinave, qui est le modèle d'éducation individualisée, où le parcours des élèves est adapté en fonction des besoins de l'élève. Donc, le cas de la Finlande, c'est les élèves suivent un cours qui est adapté en fonction de leurs difficultés. Donc, s'ils ont besoin plus d'heures de finnois, bien, ils vont prendre plus d'heures de finnois. Donc, on n'a pas une mesure normalisée de qu'est-ce qu'un élève doit savoir à tel âge, mais on va dire quels sont les besoins, puis on va donner la chance aussi à l'élève de progresser, puis combler son retard. Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi, dans des pays comme la Finlande, on a peu d'élèves qui ont des scores inférieurs au niveau 1. Alors, ce que montre le travail de Mons, c'est que le modèle de séparation semble augmenter les inégalités scolaires dues à l'origine sociale. Donc, il y a une certaine corrélation possible entre le modèle de séparation et les inégalités d'origine sociale, alors que le modèle 4, l'intégration a plutôt tendance à réduire ces inégalités-là. Donc, au début, j'ai parlé de est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent de beurre. C'est d'un point de vue, souvent on dit, il faut, notamment l'OCDE avait souvent un discours de favoriser l'efficacité. Dans le sens qui prime, c'est peu importe si on est étiquetable, du moment où on peut être la Belgique. Dans le sens que, du moment qu'on est au-dessus de la moyenne, c'est mieux. Mais il y a une certaine conception même aussi de l'OCDE de regarder en quoi finalement l'équité ne peut pas amener aussi l'efficacité. Donc il y a encore un chercheur français qui a discuté un peu des fondements, des arguments pour l'efficacité et des arguments pour l'équité. Donc d'énumérer, donc point de vue plutôt des économistes, c'est l'efficacité c'est tirer du haut. Donc on va favoriser son élite scolaire. Donc, on veut que, je t'en parlais des élèves qui avaient des niveaux 4 ou 5, on veut qu'ils soient les plus performants. Alors, c'est intéressant, finalement, ce que vous avez montré, que finalement, le Canada maintient d'être efficace, même si son élite a perdu du poids. Donc, c'est... alors, les arguments en fonction de favoriser l'élite, c'est qu'il existe des aptitudes naturelles, on ne peut pas aller contre ces différences, c'est que le meilleur... vont réussir, puis les moins bons vont moins bon réussir. Donc, il faut laisser le darwinisme scolaire. On va aussi dire que si on ne récompense pas le mérite, s'il n'y a pas l'idée d'excellence, les plus forts, on va surpasser. Donc, d'une certaine manière, ceux qui veulent favoriser l'élite veulent aussi de manière qui incite les meilleurs à réussir et aussi que les meilleurs se trouvent entre eux, dans des classes homogènes, et que les classes hétérogènes, ce n'est pas bon pour les meilleurs élèves. Donc c'est pareil aussi, il ne faut pas mélanger des élèves du privé et du public, donc il faut mettre les élèves privés ensemble, les meilleurs. Donc c'est cette logique idéologique de favoriser l'élite. Aussi au niveau des élèves les plus faibles, ou ceux qui obtiennent des scores moins élevés, c'est que... si on donne à Jacques, on enlève à Paul. Donc c'est dans le sens que si on a des politiques qui vont favoriser l'équité, ça va enlever des moyens qui vont favoriser l'efficacité. Et donc à la fin, c'est une illusion, une analogie hippique, c'est que les meilleurs élèves sont les meilleurs jockeys, donc il faut leur donner les meilleurs chevaux. Donc, une certaine idée, c'est qu'il faut donner les meilleures moyennes à l'élite scolaire pour qu'ils réussissent le mieux favoriser cette population-là. En termes de l'équité, donc l'autre argument, c'est peut-être qu'il faut passer pas non plus par les élèves qui ont des scores 4 et 5, mais regarder la situation des élèves qui ont 1 et 2 sur l'échelle. Et dire, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les 1 deviennent les 2 et les deux deviennent des trois. Dans le sens que finalement, c'est de partir du bas finalement être plus efficace pour l'ensemble du système. Donc, d'une certaine manière, statistiquement, si on a moins d'élèves faibles, on a de fait une moyenne plus élevée. Donc c'est dans le sens que, justement, si on réduit le pourcentage d'élèves qui ont des niveaux 1 et 2, qui est le cas du Canada, ou la Finlande dont on parlait tantôt, de fait, notre moyenne est bonne. Mais c'est vrai, comme on l'a dit, la Finlande ou le Canada n'a pas beaucoup de bolets, n'a pas beaucoup d'élèves excellentes. Mais le système est plutôt bon pour tout le monde. Le deuxième point, c'est de voir dans quelle mesure la pédagogie différenciée peuvent aussi avantager des élèves les plus faibles, aussi favoriser aussi des élèves les plus fortes aussi. La mixité de classe peut être positive à la fois pour des élèves plus faibles et pour les élèves fortes, notamment des élèves moyennes. On rejette plutôt l'idée que de mettre des plus de ressources sur des élèves les moins performants va nuire aux élèves les plus performants. Et finalement aussi de dire que si on donne les mêmes chevaux à tout le monde, la course serait déjà d'être premier de la classe, il y a plus de compétition, donc la mérite est encore plus grande pour celui qui gagne, même s'il n'a pas de meilleur cheval. J'ai terminé.
C'est beau.
Et donc j'ai laissé quelques références avec les hyperliens que vous pouvez consulter directement ces travaux-là.
Non, merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que les PowerPoints seront sur le site du CRIFPE dès lundi, peut-être même avant. Et je vous invite à aller prendre une pause d'une dizaine de minutes, pas plus. On reprend à 25 précisément. Merci beaucoup.